Radio Capi, grand témoin.
Moi, c'est Florence Kizalunga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des grands témoins. Grand témoin reçoit aujourd'hui Monseigneur Gabriel Undayema. Il est évêque résident, représentant légal de l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Monseigneur Gabriel Undayema, bonjour.
Bonjour, madame Kizalunga.
Monseigneur, c'est depuis 2012 que vous êtes à la tête de l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Comment ça se passe?
Oui, c'est depuis 2012 que j'ai été élu comme évêque de la 81e communauté méthodiste. Ça, je vais écouter CC. Mais s'il faut parler de l'Église méthodiste unie mondiale, c'est depuis 2012. Que je suis évêque ici côté Est. Côté Est qui englobe le Maniema, le Nord-Kivu, Sud-Kivu, province orientale et puis l'Équateur. Et en plus de l'Équateur, il faut ajouter la République centrafricaine. C'est là où je suis responsable. Donc, je suis en train de conduire les brebis du Seigneur. Ce que le Seigneur m'a donné de faire, c'est de conduire ce peuple de Dieu et les amener jusqu'à ce que nous ayons la possibilité de pouvoir nous en sortir de ces difficultés que nous avons trouvées.
Vous dirigez non seulement dans la province du Maniema et dans les autres provinces où vous avez parlé. Comment est-ce que vous faites pour maintenir de l'ordre partout là et même à votre absence?
Vous savez que nous, les méthodistes unis, nous avons notre discipline. Et cette discipline, chaque pasteur, je dis bien chaque pasteur qui termine ses études doit savoir comment se conduire, se comporter. Contrairement à cette discipline, inflige certaines sanctions et qui mène jusqu'à la radiation de la personne. Donc, quand je suis à Kindu, par exemple, je peux diriger jusqu'en République centrafricaine. Je dirige jusqu'à l'Équateur ou jusqu'à Kisangani. Quand je suis à Bukavu, je donne les ordres qui vont jusque dans toutes les provinces où j'ai la charge de conduire le peuple de Dieu.
13 ans de métier dans l'œuvre de Dieu, quel bilan, Rosalie?
Oh, 13 ans déjà dans le Saint-Ministère, c'est vraiment, c'est beaucoup pour moi parce que quand je suis arrivé à faire ces 13 ans, j'avais déjà fait beaucoup au sein de l'Église méthodiste unie. Et je vois que le bilan peut être lourd, un lourd bilan. J'ai travaillé au sein de cette Église comme évêque, tout en conduisant le peuple de Dieu. J'ai fait, quand je suis arrivé en 2012 à la tête de cette église ici, au Maniema, comme évêque, j'ai trouvé 335 000 fidèles. Seulement. Mais au moment où je vous dis, aujourd'hui, nous avons plus de 1 million et quelque chose de fidèles.
Fidèles méthodistes dans l'ensemble de la
communauté. Fidèles méthodistes, oui. Donc, fidèles méthodistes dans l'ensemble de toutes les provinces, sans compter la République centrafricaine. Parce qu'il n'y a pas longtemps depuis que la République centrafricaine était annexée dans notre région épiscopale. Nous disons région épiscopale, c'est ce que nos frères catholiques appellent diocèse. Diocèse prenait un diocèse, par exemple, de Kasson, c'est seulement le territoire de Kasson, ou bien Shabunda y compris. Vous prenez le diocèse de Kindu, c'est Kindu plus et l'autre. Mais chez nous, quand nous disons la région épiscopale, ça prend toute une province, ça peut prendre 2 ou 3 provinces que un évêque est en train de superviser. Donc, je supervise plus de 5 provinces plus une république qui est la République centrafricaine.
Ça, c'est votre bilan que vous qualifiez de positif, si je vous comprends très bien. Maintenant, dans votre gestion, vous avez votre vision, c'est lèvons-nous et bâtissons. Qu'est-ce que ça veut dire?
Très bien, madame Zadunga. Quand je suis arrivé à la tête de cette communauté en 2012, souvenirs à Kindu. Quand je suis arrivé à Kindu, c'est un lieu que je connais parce que j'ai grandi à Kindu pour avoir commencé mes études primaires et une partie des humanités. Je l'ai faite ici avant d'aller faire la théologie. Mais la façon dont j'ai trouvé la mission méthodiste unie était dévastée, complètement détruite, et j'ai appris aussi qu'il était des mêmes Tunda, là où l'église méthodiste a commencé, ça a été détruit complètement, surtout l'hôpital qui faisait la réputation, la bonne réputation, qui rayonnait d'église méthodiste unie partout, et nous avons vu que ça, il faut le Seigneur nous donne une vision. J'ai prié le Seigneur et qui m'a donné cette vision-là, qui vient de livre de Néhémie, chapitre 2, verset 18. Et Néhémie a fait la même chose. Néhémie était près du roi, mais quand il a appris que dans son pays, dans sa ville, il y a un ça ne va pas, alors il a demandé au roi d'aller aider ses frères et sœurs. Il était de même pour moi quand je suis venu ici. J'ai trouvé que rien n'allait plus, parce que les maisons que j'ai laissées, les écoles, ainsi de suite, les temples étaient complètement détruits. C'est ainsi que j'ai fait appel à mes frères et sœurs. Je leur ai dit, lèvons-nous et bâtissons. Donc, moi, j'ai dit, lèvons-nous et répondent, bâtissons. Et Dieu merci, ils ont répondu à cet appel et nous avons vu que leur réponse n'était pas vaine. Ils ont répondu et nous avons construit ensemble notre région.
Qu'est-ce que cette vision a produit comme effet dans votre région épiscopale?
Madame, la vision a produit comme effet d'abord là où nous sommes, ici, dans ce bâtiment. C'est le bâtiment administratif. Il n'y avait rien ici. Il y avait des maisons qui étaient construites là où nous sommes, mais on avait tout détruit. Même les moellons étaient déterrés. On déterrait même les pierres qui étaient... Quand on déterre les pierres, vous comprenez, il n'y a rien qui reste. Donc, il n'y avait rien qui était resté. Toutes les maisons que vous voyez lors des affrontements RCD et l'armée loyale, les obus qui tombaient ici détruisaient toutes les maisons. Et il n'y a que cette église que vous voyez là qui était restée debout. Dieu a fait le miracle et il n'a pas voulu que cette église soit détruite. Et c'est l'église qui était restée debout. Aujourd'hui, nous avons comme monument cette église qui est là. Nous avons fait un grand travail ensemble avec tous les frères et sœurs qui ont répondu positivement à mon appel.
Je crois, à part l'église, vous avez cité la cité de Tunda. Je crois que c'est là même l'origine de l'église méthodiste. Si on peut avoir une idée de l'historique de l'église méthodiste dans la province.
Bien sûr, nous avons l'histoire de Tunda, de la mission. Quand je dis Tunda, ce n'est pas une personne, mais c'est la mission. Mission Tunda, il y avait un des chefs, toujours de ce côté-là, chef Nyama Loahe, le père du professeur Loahe Nyama, qui vient de totaliser 100 ans. Dans quelques semaines, il y aura 100 ans d'âge. Et son papa était parti à Wembonyama se faire soigner parce qu'il suivait dans l'ancien temps. Il y avait ce qu'on appelait les Lokumbe, les Lokole, il battait ça pour dire que à Wembonyama, il y a des blancs qui viennent d'arriver. Donc, les gens de couleur blanche qui venaient d'arriver, ils sont là en train de soigner les malades, ainsi de suite. Et lui, il est allé se faire soigner. Et il a trouvé l'hospitalité de ces blancs. En rentrant de là, il a demandé à ce que les blancs viennent jusque dans son village. Quand ils sont venus, malheureusement, ils n'ont pas trouvé une eau à boire, une bonne eau à boire, et ils sont allés. Il leur avait dit de foncer un peu plus loin jusque chez chef Tunda Kasongo. Et ils sont allés jusque chez chef Tunda Kasongo, qui les a accueillis et leur a montré l'eau. Il y a une petite rivière qui fait une source d'eau qui fait sortir une bonne eau et la terre aussi pour construire des maisons. Ils ont trouvé une bonne terre pour fabriquer des briques cuites et ils ont fait ça. C'est ainsi que ça a commencé à Tunda. Et ils ont acquis cette place moyennant quelque chose. Ils avaient acheté là où se trouvait la mission. C'est comme notre petit Vatican. Oui, notre petit Vatican. C'est pour l'Église méthodiste unie. Nous remercions beaucoup ces vaillants chefs, Nyamaloahe et Kasongo Tunda, qui avaient aussi une vision. Nyamaloahe avait une vision d'appeler ces missionnaires jusque l'autre côté de la rivière Lomami ici. Et il les a envoyés chez son frère Kasongo Tunda. Il les a accueillis tout en leur donnant la terre pour construire. Donc le terrain pour construire. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de l'Église méthodiste unie à Tunda. Ils ont construit jusqu'à avoir un hôpital. Un hôpital qui a fait l'histoire. Oui, qui a fait l'histoire parce que les malades venaient de Bujumbura. Venaient du Rwanda au Burundi, venaient de partout, ils venaient aussi de Congo-Brazzaville. Imaginez-vous où venir se faire soigner à Tunda. Et les enfants des commerçants qui étaient à Kibombo, la famille Patel, pour ceux-là qui connaissent bien les Patel, sont les Indiens, ils amenaient leurs femmes à Tunda pour accoucher. Vous voyez que c'est vraiment historique, ces sites-là. C'est historique.
Est-ce que l'hôpital garde encore la même renommée jusqu'à aujourd'hui?
Bon, ça dépend des animateurs, ça dépend de ceux qui travaillent. Tout d'abord, je ne peux pas dire oui, parce que vous voyez que la première construction que les Blancs ont laissée s'est tombée, s'est écroulée.
Mais dans votre vision, lèvons-nous et bâtissons, vous n'avez pas pu songer à l'hôpital?
Bien sûr, c'est là où je vais, madame. Oui. J'ai construit ensemble avec les autres. Donc, nous avons eu les fonds de GBPM, donc Global Board of Ministry. Nous avons reçu l'argent pour construire. Et nous avons construit un hôpital. Je peux vous dire que cet hôpital de Tunda est plus grand que même l'hôpital de Kibombo. On n'avait jamais été à Kibombo.
Non, heureusement.
Oui, c'est ça. Donc, c'est plus que l'hôpital de Kibombo. Mais nous avons reconstruit. Il y avait une école d'infirmiers, mais maintenant, nous sommes au niveau de ITM. Il y a un ITM qui fonctionne. Nous avions une école pastorale, mais aujourd'hui, nous avons un institut théologique qui fonctionne normalement et un internat. L'internat qui était là était déjà foutu, mais nous avons construit un internat qui fonctionne normalement avec les enfants qui viennent de part et d'autre.
Ils viennent de part et d'autre, mais avec la situation de Runto dans notre province, est-ce que la route pour arriver à Tunda, c'est praticable ou comment les gens font comment pour arriver à Tunda?
Oui, les enfants qui étaient Pounia jusqu'à Tunda, par moto ou par vélo, ils arrivent sans problème.
Mais avec difficulté?
Bien sûr que oui. C'est ça la réalité du pays. Ils quittent Samba jusqu'à Tunda, ou ils quittent Kasongo jusqu'à Tunda via Kibombo, sans problème. Nous recevons aussi les étudiants ou élèves qui viennent de l'autre côté de la rivière Lomami. Ils viennent de Sankuru. Nous les recevons pour venir étudier à Tunda.
En tant qu'évêque, vous n'avez pas seulement songé aux églises. Je pense que vous avez aussi jeté un coup d'œil du côté de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez fait de vos écoles? Parce que l'Église méthodiste unie a aussi des écoles un peu partout.
Madame, les écoles, s'il faut parler des écoles, ça, je peux vous dire que nous avons des centaines d'écoles primaires et au niveau des humanités. Tout de suite là, nous venons d'avoir notre conférence annuelle. Nous avons fait l'évaluation de toutes ces écoles qui fonctionnent normalement et qui sont aussi payées comme les autres écoles de l'État. Nous n'avons pas oublié le problème des écoles parce que les enfants, quand ils étudient, ça c'est l'avenir du pays, disons. Ils sont là en train d'étudier. Il y a ceux-là qui vont présenter leur examen de niveau primaire, niveau des humanités, niveau des graduats, niveau des licences. Et nous attendons tout simplement que les autres jours viennent parce que nous avons notre université. Nous avons notre université ici qui fonctionne normalement, une université agréée par l'État, et nous attendons tout simplement que l'État subventionne cette université et ça sera quelque chose de bien.
Aussi, Monseigneur, nous avons dans vos dires souvent vous parler de l'évangélisme social. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, l'évangélisme social, madame, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous venons de dire. Nous avons ouvert pour les femmes, nous avons ouvert le moyen pour qu'elles puissent aller de loin. Quand la femme étudie, c'est déjà une réussite pour nous. Vous avez été témoin vous-même, nous avons ouvert l'école de métiers ici la semaine passée, parce que nous avons eu dans notre vision la possibilité de faire avancer cette femme pour qu'elle aille un peu loin. Donc ces jeunes filles-là qui sont venues faire une formation, simple formation, parce que elles étaient stigmatisées, elles étaient violées, et ainsi de suite, et nous les avons récupérés. Vous savez que, je l'ai toujours dit, cet argent qu'on m'avait donné pour acheter un aéronef, comme dans toutes les régions épiscopales, j'ai dit, je n'en ai pas besoin, j'ai besoin de quelque chose qui peut être à la portée de tout le monde, parce que l'avion, cette femme qui souffre à l'intérieur n'aura pas la possibilité de payer son billet, de quitter Tunda pour aller à Kindu, ou bien de quitter Kindu pour aller à Kisangani. Non. Alors, j'ai cherché un moyen de donner à tout le monde la possibilité de se retrouver. C'est ainsi que nous avons commencé avec ces femmes dans ces centres que vous avez vu ici.
Les centres Mamaline.
Centre Mamaline. Nous n'avons pas encore inauguré. Nous laissons cela à notre successeur qui va venir d'inaugurer. Le centre Mamaline forme ces femmes. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Alors nous avons eu la chance d'avoir l'agrément de l'État. Comme l'État vient d'agréer ce centre, maintenant on va inscrire ces mêmes élèves et les autres qui vont venir pour avoir leur diplôme d'État. Et après avoir obtenu ce diplôme d'État, elles vont aller jusqu'au niveau, d'ailleurs même les hommes peuvent faire la même chose, permettez-moi de dire, ils vont aller parce qu'il y aura des hommes aussi là-dedans.
Parce qu'avec les centres Mamaline, c'est un soccer de femmes, comme vous avez dit, les femmes abandonnées, les filles mères, les stigmatisées qui participent maintenant avec une école, les formations, ça va accueillir tout le monde.
Ça va accueillir tout le monde. Donc, il y aura une partie des formations qui va s'arrêter tout simplement avec cette vision d'antan. Donc, la femme et la fille stigmatisée étudie, elle est formée pour fabriquer, par exemple, du savon, et pour avoir, par exemple, pour avoir une connaissance à coudre les habits, ainsi de suite. Mais nous aurons maintenant la chance d'aller avec cette formation jusqu'au niveau universitaire. Tandis que l'autre partie de la formation va s'arrêter au niveau de la formation, tout simplement la formation orthodoxe. Nous allons les former à ce niveau, on s'arrête là.
C'est-à-dire, les centres vont continuer et que l'école aussi sera là des côtés.
Bien sûr.
Celui qui voudra, il se limite à la formation et d'autres qui auront des talents, ils peuvent.
Bien sûr, ça c'est notre vision. Ça dépendra aussi de l'évêque qui va venir, s'il sera d'accord avec ça ou pas. Ça dépendra entièrement de lui. Vous avez vu que nous venions de lancer la construction de cette école qui va continuer à former les femmes pour qu'elles aient l'occasion d'achever leurs études.
Merci beaucoup. Mais nous voyons également que l'Église méthodiste, c'est aussi dans des activités agro-pastorales. Vous œuvrez également là?
Oui, nous avons fait l'Église méthodiste unie, une Église multiforme, multisectorielle. Parce que quand nous faisons l'agro-pastoral, nous visons l'avenir de demain. Les gens souffrent de, par exemple, de manque de vitamines, et ainsi de suite.
Mais il y a aussi un taux élevé de la malnutrition.
Par exemple, oui. Alors, quand nous lançons cela, ça peut nous aider d'avoir sauvé ces gens qui sont en train de souffrir.
Monseigneur, je pense que c'était aussi l'idée pour aider certains pasteurs, pour ne pas être une charge à l'Église, que les pasteurs se donnent aussi à des activités pareilles pour se prendre en charge.
Oui, nous sommes en train de les aider aussi à avoir cette idée de cultiver, d'élever, de faire ce qu'on appelle pisciculture, d'élever les poissons et ainsi de suite, volailles et ainsi de suite. Mais ici, dans le cadre concret, nous leur donnons la chance de faire ces activités afin de donner à nos familles même la chance. Vous voyez ce que nous avons fait avec les dames qui ont terminé. Elles ont eu la chance d'obtenir, par exemple, l'acide caustique pour fabriquer du savon, leur a donné...
Même la machine à coudre.
La machine à coudre, de l'huile, de la farine pour faire la pâte.
Des beignets, des pâtes.
Donc nous sommes en train de lancer cette jeune femme et nous sommes en train de lancer aussi ce monsieur. Vous voyez que les hommes ne sont pas capables de fabriquer les beignets?
Ils sont aussi.
Et alors?
Et ils les font dans la ville.
Ils les font. C'est eux-mêmes qui ont, par exemple, honte ici à Kindu, quand on trouve un homme en train de préparer les beignets, on dit, oh, voilà, ce monsieur. Non, ça c'est le travail de tout le monde. Il faut que tout le monde fasse cela.
Radio Capi, grand témoin.
Mesdames et messieurs, si vous nous captez encore des diffusions, grand témoin reçoit aujourd'hui Monseigneur Gabriel Undayemba. Monseigneur Gabriel Undayemba, il est évêque résident et représentant légal de l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Avec lui, nous parlons de son parcours et de ses expériences dans son métier d'évêque. Monseigneur, à part être pasteur, homme de Dieu, vous avez aussi des ambitions politiques. Si je ne m'abuse, vous avez, vers l'année 1982, vous avez été le premier suppléant à la députation nationale pour la circonscription électorale de Kibombo.
Oui, tous ceux qui étaient à Kibombo peuvent se rappeler que en 1982, j'étais élu au premier suppléant. Bon, je ne dis pas que j'étais, c'est moi qui étais élu, on m'avait truqué les voix, ça ce n'est pas bien, oui, ça tout le monde sait que c'est frère Ounda qui était, à ce moment-là on m'appelait frère, c'est frère Ounda qui était élu. À cette époque-là, on était avec l'oncle paternel de l'honorable Tunda Kasongo, on était avec, que les âmes reposent en paix, on était avec Monsieur Emongo Djende, on était nombreux et nous avons fait ces élections, mais c'était une expérience pour moi de faire du bien. J'ai remarqué à partir de là que on peut être élu sans donner un rond. Si on vit très bien avec
la population,
on peut être... Moi, je n'avais rien, un simple pasteur, un pauvre pasteur, mais j'ai battu. J'ai battu ceux qui avaient beaucoup de moyens. Donc tout ça, c'est parce que il y avait la modestie, il y avait la bonne manière de vivre avec la population. Avec mes frères et sœurs, on vivait ensemble. Quand il y avait problème, je ne manquais pas. Je répondais sans attendre.
Des moments de joie, tout comme des moments de douleur.
Oui. Dans la joie comme dans l'opulence, nous le faisons.
Mais vous, en tant que pasteur, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter le pastorat et à aller directement à la politique?
Oui, c'est ça. C'est ça ma question aussi. les gens m'ont poussé d'aller là-bas. C'est la population.
Et des fidèles aussi.
Oui, les fidèles, c'est la population, j'ai dit bien, population qui venait me prendre. J'étais chez moi, on vient, on ouvre la porte, on dit, allons-y, papa, il me transporte. Je ne marchais pas à pied.
Ah bon?
Ah non.
Vous marchez sur les quipouilles?
Oui, non, sur les épaules.
Les épaules.
Sur les épaules des gens, toute la ville, la cité de Kibombo. J'étais aussi à Likeri, j'avais fait Kiyungi, Lowe. En tout cas, c'était un moment de joie pour moi.
Alors, on peut dire que c'est à vie, votre manière de vivre avec la communauté qui on vous a même publicité comme meilleur acteur de développement pour l'Église méthodiste unie au Maniema par les clubs de meilleurs. Je crois que c'était en 2017.
Oui, j'ai beaucoup de diplômes, madame Kizalunga. Ça, ce n'est qu'un parmi les diplômes que j'ai. À Kinshasa, j'en ai 4. Et ici, j'ai 2. J'avais même eu 2 médailles de mérite civil. J'avais eu la médaille mérite civil en bronze et puis en or, j'en ai. Et de tout récemment, ici, d'ici quelques jours, à Kinshasa, on va encore me primer par une association qui va me décorer. Ah oui. Donc, tout ça, d'ailleurs, quand on m'avait choisi, je n'étais même pas ici à King. Le groupe déjà était venu quand ils ont découvert que j'ai développé ce côté ici, la forêt, parce qu'on appelait l'Okolé à Pôle.
L'Okolé à Pôle. Oui. Même ce nom existe jusqu'à aujourd'hui.
Je ne sais pas s'ils peuvent encore appeler l'Okolé à Pôle. Et quand ils appelaient le collet à Pori, ils sont venus dire, non, ça ce n'est plus le collet à Pori, ça devient vraiment le collet à Ville. Alors ils ont dit, nous allons décorer Papa Onda quand il sera à Kinshasa.
Maintenant qu'on vous donne des diplômes comme ça, beaucoup encore, hein, des diplômes d'honneur, de mérite, quoi là, qu'est-ce que ça donne comme sentiment en vous?
Ça me donne le sentiment d'aller encore plus loin, hein, de faire toujours du bien, de travailler pour l'autre. Ça c'est ce qui me préoccupe beaucoup. Je dois travailler pour l'autre parce que nous devons développer notre coin. Nous devons faire du bien, pas seulement ici à Kindu ou bien à Kasongo, à Punia ou bien à Kisangani, mais nous devons faire du bien partout.
Monseigneur Gabriel Undayemba, vous êtes déjà éligible à la retraite. Bientôt là, dans quelques mois, quelques jours, vous ne serez plus évêque président de l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Vous allez quitter votre poste, l'évêché, avec quel sentiment? Vous laissez comment l'Église méthodiste partout dans votre région épiscopale?
Oui, merci pour cette belle question. J'ai quitté l'Église méthodiste unie en tant qu'évêque résident. Il faut savoir, madame, que dans l'Église méthodiste unie, l'évêque reste évêque jusqu'à la mort. Votre évêque ici, Onda, il reste évêque jusqu'à sa mort. Ce n'est que la résidence, il n'aura pas une résidence comme telle. Nous, la plupart de mes prédécesseurs, les résidences, c'est aux États-Unis. Quelqu'un termine son mandat, il préfère au moins aller rester aux États-Unis. Moi, j'ai dit, les États-Unis, ce n'est pas chez moi. J'ai ma maison dans mon village. J'avais construit ma maison. Je peux rester dans mon village natal. Et je n'ai pas peur de rester là-bas. Tout comme je peux rester dans le chef-lieu de mon territoire, Kibombo, je n'ai pas peur. Je peux rester dans le chef-lieu de ma province, à Kindu. J'ai mes maisons là-bas. Je dis bien mes maisons.
Oui.
Et à Kinshasa aussi, la capitale de mon pays, j'ai quelques maisons aussi. Alors, je peux rester sans peur dans mon pays parce que je sais ce que j'ai fait, Dieu seul connaît. Alors, je laisse cette église avec un sentiment de bon souvenir et je demande à ce que celui qui vient après moi, qu'il emboîte, mais pas, il emboîte, mais pas, si possible, parce que chacun a sa manière de diriger.
Ça aussi.
Oui, je ne dis pas qu'il doit nécessairement être figé dans ce que j'ai fait, non, mais il est libre de faire ce que bon lui semblerait. Mais moi, j'ai fait ce que j'ai vu. Vous savez pourquoi? Quand j'ai terminé mes études et j'étais trop jeune, j'ai travaillé avec l'évêque, le tout premier évêque noir méthodiste congolais, l'évêque Chung. J'ai travaillé avec lui pendant une année seulement. Et il a été remplacé par l'évêque Onema, femme, avec qui j'ai travaillé pendant 32 ans. Et l'évêque Onema, femme, même année à être élu comme évêque, il a fait de moi son représentant légal suppléant ici au Maniema. Et puis, j'ai travaillé avec Papa Onema, évêque, pendant 32 ans. Il ne m'a jamais puni, il ne m'a jamais grondé, il ne m'a jamais sanctionné. Quand j'ai travaillé avec Papa Onema, il a même trouvé bon de faire de moi le directeur de cabinet au niveau de l'Église et du Christ au Congo. Et je suis allé là-bas pour travailler avec Monseigneur Marini Fama et Marini Bodo, qui m'a pris encore comme son fils. J'ai travaillé avec Monseigneur Marini à l'église du Kiso Congo. Et quand j'étais là, Papa Yemba était évêque ici au Congo central. Et à ce moment-là, Congo central, Régorgé, Congo central, Sankuru et Maniema. Et après, on a scindé et on a fait appel à moi pour venir diriger cette partie de l'Est, du Nord-Est, c'est-à-dire Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, province orientale et Équateur. En plus de ça, il faut ajouter la République centrafricaine. Donc, c'est ça, madame. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est mon cœur qui me dit. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais je ne prétends pas avoir tout fait. Il y a quelque part où j'ai mal fait. Il y a quelque part où je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, que celui qui vient, je prie le Seigneur d'être avec lui afin qu'il aille un peu plus loin, plus que ce que j'ai fait.
Mais toutefois, vous restez à ses côtés avec des conseils, si possible.
Tu le veux.
Mais vous n'êtes, vous l'avez dit, vous n'êtes pas résident, mais vous demeurez évêque.
Oui, je reste évêque jusqu'à ma mort, mais je ne peux pas imposer les conseils à un évêque.
S'il est bien, vous êtes disponible.
Voilà, c'est ça.
Le grand témoin.
À vous qui venez de nous capter en cours de diffusion, grand témoin reçoit aujourd'hui Monseigneur Gabriel Undayemba. Il est évêque résident, représentant légal de l'Église méthodiste unie au Congo Est. Monseigneur, nous allons tourner un peu la page. On a parlé de votre métier, de votre parcours en tant qu'évêque, en tant que pasteur. Maintenant, là, nous allons parler de Gabriel Undayemba. Dites-nous, qui est Gabriel Undayemba?
Gabriel Undayemba, c'est un citoyen congolais de la République démocratique du Congo. J'appartiens à l'une de ces 26 provinces de la RDC. Je suis géré des questions parce que je suis marié, père des enfants. Je fais ma carrière avec beaucoup de joie et pas, mais j'ai connu pas mal de difficultés, bien sûr, mais pas tellement jusqu'à me décourager. Je n'ai jamais eu un découragement dans ma vie. Jamais. Je fonçais toujours. J'ai foncé. Là où il y a difficulté, j'étais prêt à répondre. C'est ainsi que même mon papa, évêque Onema, lui disait toujours de moi que frère Wunda, c'est quelqu'un de courage, qui est très courageux. Là où il y a des difficultés, envoyez Wunda, il va trouver solution. Et c'est vrai. J'ai trouvé solution partout là où il y avait difficulté. La preuve, c'est ici. Vous pouvez voir comment notre région épiscopale se présentait, mais nous l'avons quand même relevé dans un niveau voulu et nous continuerons pendant ces 2 jours qui me restent à le faire. Vous avez vu, il y a de cela 4 jours, quand j'étais en train de lancer cette opération-là de construction de ces bâtiments d'école pour les femmes, je disais, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, je vais faire le travail du Seigneur. S'il faut l'achever, je vais l'achever.
Gabriel Undayimba, qui est son père et qui est sa mère? Fils de qui?
Oui, le père de Gabriel Undayimba s'appelle Yemba Yuakari Dibende. Mutiwasinga, kunepa sikukatika.
Wow! Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est-à-dire, vous voyez, ce sont les gens qui étaient trop prétentieux. Oui, donc, Mutiwasinga, c'est des poteaux de fil électrique. Donc, les vents peuvent venir, peuvent les secouer. Ils peuvent osciller à gauche, à droite, mais ne peuvent pas se rompre.
Mais il y a des fois où des cuirs aussi se coupent.
Ce sont des faibles.
Ce n'est pas pour son cas.
Ce sont des faibles.
En tout cas. Et la maman?
Ma mère s'appelait Salima Pia, ou Aboucher.
Quand vous dites là, s'appelait, c'est qu'elle n'est plus avec nous, Élisée.
Même mon père, ma mère, ils ne sont plus à vie.
Oh, wow! Toutes nos condoléances et la paix éternelle et à
vous. Merci. Mais ceci, j'étais orphelin de mère à l'âge peut-être de 8 mois. Je n'ai pas connu ma mère. Non, je ne l'ai pas connue.
Vraiment? Alors, dites-nous, comment est-ce que Gabriel Unda a étudié? Où est-ce qu'il a fait ses études primaires, les études secondaires et même les études universitaires?
Oui, j'ai fait les études primaires. D'abord, j'ai commencé par cette école-là qu'on appelait école du village. École du village, ce sont les pasteurs qui n'avaient pas de formation, qui venaient tout simplement pour prêcher et qui étaient là pour nous enseigner un peu. Et après, nous avions un chef visionnaire, un chef de chefferie, visionnaire, chef Mulambalo. En tout cas, j'ai dit visionnaire, c'est parce que il avait pris une décision d'amener tous les enfants à partir de 6 ans, dans son village, dans sa localité, là où il était chefflier de la chefferie, pour venir étudier. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait d'abord construit. Il avait construit des maisons. Il avait mis des lits à bambou, des nattes, tout ça, des nattes partout dans des maisons. Et quand les enfants venaient, on les mettait directement là. Maintenant, pour manger, comment est-ce qu'on mangeait? Consigne. Quand on entend la cloche qui sonne, tout le monde doit aller là chez les chefs. Des centaines d'enfants, il fallait voir. Maintenant, on était un peu confondus. Même les enfants du village, au lieu de manger chez eux, ils venaient.
Oui, ils attendaient déjà la cloche.
Oui, la cloche sonne. Même les enfants du village viennent manger avec nous. Et c'était ça. Et encore, au village, disons, dans toute la collectivité, la chefferie des Alouba, il y avait des gibiers, il y avait des gibiers partout, et les chasseurs, il suffisait qu'ils donnent seulement le fusil, ils disent aux chasseurs, amenez-moi une vache, celui-là entre la forêt, il ne peut même pas faire 30 minutes, vous entendez les coups de fusil, il amène
un gibier,
il amène la queue, il vient jeter devant le chef, et le chef appelle le pasteur, parce qu'on respectait beaucoup le pasteur. Il appelle le pasteur et dit, « Bah, pasteur, viens, venez ici, prenez ce petit mouton, le donnez à vos enseignants. » Donc, les enseignants aimaient travailler à Kitambwe, chef-lieu de notre chefferie, parce que le chef était généreux. Et le chef aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Il distribuait les habits. Chaque fête de Noël, ou fête de bonne année, ils distribuaient des habits. Alors, les enseignants aimaient bien aller travailler au village chez les chefs que d'aller ailleurs ou en ville, parce qu'ils étaient très bien traités et ils étaient toujours content. C'est ça, j'ai fait une partie là à Kitambwe et après je suis allé à Tunda. Quand je suis allé à Tunda, j'ai trouvé le système de piler les millets et les riz et mes frères ont vu que non, il va sauter d'ici les doigts déjà presque déformés et ils m'ont pris pour venir avec moi à King. C'était ça, j'ai eu mon certificat.
Dans quelle école?
École ici même. L'école que vous voyez, école locale, locale.
Monsieur
ça, ça ne portait pas le nom de local à ce temps-là. On appelle seulement école primaire locale.
Vraiment?
Non,
locale toujours.
Oui, locale ici. Alors après l'école de Melo locale, j'ai poursuivi mes études ici même parce que avec le professeur Lokombe, il venait de Katoubwe, il nous a encadré pour être les élèves au niveau de l'humanité. On a commencé le CO parce que nous avons fait le système des cycles d'orientation et nous avons fait le CO ici. Après ce CO, je suis allé chez les catholiques au collège Saint-Esprit. Nous, on appelait ça collège
Saint-Esprit.
Saint-Esprit.
Avant d'être nano.
Oui. Et nano, ça c'est après. Nous sommes allés au collège Saint-Esprit. Il y a beaucoup de mes collègues qui ne sont plus dans ce monde. Et nous avons fait là-bas, les blancs, les pères blancs qui étaient là, s'intéressaient beaucoup à moi. Alors les pasteurs qui étaient ici, les missionnaires, ont appris que les blancs commencent à s'intéresser à Gabriel. Alors ils ont dit non, 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 nous risquons de perdre ces garçons.
Ils
vont les récupérer.
Ils avaient peur que vous ne deveniez peut-être que prêtre ou évêque.
Alors, ils m'ont récupéré pour m'envoyer à l'Athénée. Athénée, c'était l'école des laïcs. Et ils m'ont envoyé là-bas. Et après, eux-mêmes, ils ont jugé bon. Ils ont dit, non, non, là, il risque encore d'être perdu davantage. Il faut l'envoyer loin. Et je suis allé à Dingenga, Lodja.
Allô,
oui, je suis allé à
c'est
Côte.
Dans le
Saint-Couvent. Oui, oui. Et c'est là où je suis allé faire mes études jusqu'à l'achever. Et quand j'étais là, on a envoyé les concours pour aller à faire la théologie. Nous avons fait les concours. J'ai réussi. On était en deux. Nous sommes allés. Tous les deux s'appelaient Gabriel. Il y avait Gabriel Lurunga et Gabriel Onda. Malheureusement, Lurunga était assassiné par les gens de mauvaise foi au Katanga. Et nous sommes allés à Molungush. On a terminé. Quand nous avons terminé, moi, on m'a envoyé à Wembonyam. Et Lurunga, Gabriel, était envoyé ici, à Kindu, à la cité.
Alors, Monsieur l'évêque Gabriel Undayimba, quel genre d'enfant étiez-vous? Brigand et gentil ou con?
J'étais un enfant très gentil, oui, mais qui aimait blaguer avec tout le monde. Et c'est comme ça que même mes collègues qui étaient avec moi ne se fâchaient pas. Même si je disais quelque chose qui était contre quelqu'un, tout le monde criait. Mais on savait que j'étais en train de blaguer.
Est-ce que vous gardez encore quelques noms, les souvenirs de quelques noms d'enfance, de vos amis?
Les noms?
Oui.
Oh, ils sont là. Nous avons, par exemple, je venais de parler hier avec Monsieur directeur Choko Oseng. Il est directeur à Kiyungi. Nous avons Frédéric Djongelo. Nous avons Oyaka Rose. Elle est à Kinshasa. Nous avons beaucoup.
De votre enfance, quel souvenir, un mauvais souvenir que vous gardez jusqu'aujourd'hui?
Oui, je peux dire, quand j'ai perdu mes grands frères, quand j'ai perdu mon père, parce que ma mère, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas connue, peut-être ça peut être un mauvais souvenir. Mais parce que garder un mauvais souvenir, c'est comme si j'étais contre... Non, non, je n'étais pas contre les gens. Je faisais toujours du bien, malgré moi, je faisais du bien. Et les gens m'aimaient beaucoup. Et ce que je ne comprenais pas, les gens m'aimaient, on était toujours ensemble avec les copains.
Avec les copains. Alors, Vous avez quand même de bons souvenirs, comme vous venez de le dire. Vous avez des amis avec qui vous vivez. Mais il vous était arrivé de commettre une bêtise dans votre vie que vous vous souveniez? Ce que vous avez commis comme bêtise?
Oui, il fut un moment où j'habitais l'autre côté de la rive du fleuve, hein, la rive droite. Et j'ai voulu ramer, parce que là, ce sont les gens qui rament, hein, les rameurs, surtout. J'avais pris la pirogue de mon oncle, j'ai ramé moi-même. Avec le poisson là-dedans, je croyais que je pouvais venir vendre, ici avoir de l'argent et traverser moi-même. Alors, je n'ai pas pu réussir la pirogue à chavrer. Moi-même, j'étais au point de mourir. Heureusement, il y avait des gens qui savaient comment nager. Ils m'ont récupéré. Mais le poisson était parti. Mais ils m'ont récupéré moi, et ainsi que la pirogue.
Et maintenant que vous avez commis ça, quelle a été la réaction du parent? Comment vous avez si les noms rentraient à la maison après avoir commis?
À ce moment-là, les parents n'étaient plus mes oncles.
Les oncles?
Je vous dis que j'étais un enfant bien aimé. Quand j'ai fait ça, moi, j'avais peur, je croyais qu'on allait me frapper, on allait me gronder. Au contraire, ils avaient exprimé un sentiment de
compassion.
De compassion envers moi.
Et c'était une joie pour vous. Oui. Contrairement à ce que vous pensiez.
Oui, c'est ça. C'était un mauvais jour pour moi, bien sûr. Mais quand j'ai vu l'amour de mes oncles, ça m'a beaucoup approché.
Gabriel Undayemba, qu'est-ce qu'il aime manger et quelle couleur vous préférez?
J'aime manger les foufou au pondo et poisson.
Poisson fumé, poisson?
Poisson frais. Oh, yama futa.
Wow.
Oui. Et puis, la couleur que j'aime, c'est la couleur, il y a deux couleurs.
Oui.
J'aime la couleur noire et la couleur bleue.
Pourquoi les faire de ces deux couleurs?
Oui, parce que la couleur noire, j'aime porter la couleur noire quand je mets la chemise blanche, et les chaussettes noires, la chaussure noire, ça me plaît beaucoup.
En tout cas.
Oui.
Et l'autre couleur?
L'autre couleur, c'est mal le bleu. Je l'aime comme ça.
Sans motif?
Non, non.
Vous l'aimez comme ça?
Sans motif.
Alors, quel genre de musique que Gabriel Ouna aime écouter quand il est à côté? Vous m'avez dit que vous êtes marié à qui?
Je suis marié à madame Marie-Claire Manafunde.
Marie-Claire Manafunde, quand vous êtes à côté de Marie-Claire Manafunde le soir, quel genre de musique que vous aimez?
Nous entendons toujours, nous voulons écouter la musique religieuse.
La musique religieuse?
Ouais.
Peu importe les chantres, mais que ce soit une musique religieuse, ouais. Et là, ça va vous plaire?
Pas n'importe laquelle. Mais nous avons notre musique de notre église et nous entendons.
À tout moment.
Oui.
Souffre
Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission Grand Témoin reçoit aujourd'hui évêque Gabriel Umdayemba, il est évêque résident, représentant légal de l'église méthodiste unie au Congo Est. Avec lui, nous avons passé tous ces temps ici, il nous a expliqué sa vie, le parcours de son ministère. Monseigneur Gabriel Umda, peut-être pour terminer, vous êtes en train d'aller à la retraite. Quel conseil donner à ces jeunes qui vous écoutent en ce moment, à cette maman qui vous écoute en ce moment, à ce papa qui vous écoute en ce moment, peut-être qu'il a désespéré dans sa vie. Vous avez passé, traversé des moments très critiques et difficiles dans votre vie, mais vous avez quand même résisté et aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes là. Bientôt, vous irez en retraite. Quel conseil donner à tout ce monde qui vous écoute?
Merci beaucoup. Le conseil que je donne, c'est d'être gentil, d'avoir l'amour envers les autres et de traiter tout le monde de la même manière, avec beaucoup d'égard. Il ne faut pas négliger quelqu'un parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il est ceci ou cela, non. Mais nous devons faire attention avec ça. Il faut aimer tout le monde de la même manière parce que Dieu nous a créés de la même manière. Quand nous étions tout petits ici, nous cherchions les goyaves dans cette forêt que vous voyez. On cherchait, mais ils savaient un jour que je serais évêque. Non, mais quand vous faites du mal à quelqu'un, il faut penser aussi au lendemain. Qui viendra-t-il dans les jours à venir? On ne dit pas que quand vous êtes élevé à dignité, que vous devez punir les autres, vous devenez un tyran, mais vous devez toujours aimer. Quel que soit votre titre, il faut être ensemble avec les autres.
Monseigneur Gabriel Umda, quels sont selon vous les grands défis qui attendent votre successeur?
Oui, le défi de Voma, il est là parce que vous avez entendu on parlait beaucoup l'homosexualité, tout ça. C'était du mensonge. Donc, qu'il sache qu'il sera taxé. Il sera taxé, même s'il n'a rien fait, il sera taxé. Mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de supporter, de voir que ce sont les enfants qui disent des choses pareilles. Mais quand on est calme, le calme va répondre.
Monseigneur Gabriel Umdayemba, merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir accueilli Grand Témoin aujourd'hui. Nous vous disons sincèrement merci et bon repos.
C'est moi qui vous remercie, Madame Kisalunga.
Mesdames et messieurs, c'est fini pour Grand Témoin aujourd'hui. Grand Témoin était avec Monseigneur Gabriel Umdayemba. Il est évêque résident, représentant légal de l'Église méthodiste unie au Congo Est et modérateur national de l'Église du Christ au Congo. Moi, c'est Florence Kizalunga. Je vous remercie et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.